VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Burkina Faso, pour la première fois depuis 2009, un président français va fouler le sol burkinabé. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en visite officielle de 72 heures au pays des hommes intègres. Sur place, le locataire de l'Élysée prévoit des échanges de haut niveau avec les autorités burkinabées et une série de visites dans la capitale. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Dans l'agenda chargé du président de la République française à Ouagadougou figurent plusieurs séances de travail et des échanges de haut niveau avec les autorités burkinabées. À côté de cela, le locataire du palais de l'Élysée va visiter une école primaire de la capitale, puis inaugurer au dernier jour de son séjour la grande centrale photovoltaïque de Zaktouli, dont la coopération française a assuré une partie du financement. Le président français devrait prononcer un discours attendu également à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou sur les nouvelles orientations de la politique française en Afrique. Une politique décriée ces dernières années par la société civile burkinabé qui aimerait voir Emmanuel Macron marquer la rupture prônée et s'exprimer sur les questions qui fâchent, notamment le mandat d'arrêt international de la justice burkinabé contre François Compaoré et celle du franc CFA. Des questions qui, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry, ne devraient pas ternir la réputation de terre d'accueil et d'hospitalité du Burkina Faso pour cette visite d'un chef d'État d'un pays qui accompagne sans discontinuer le développement du Burkina Faso, plus de 55 milliards de francs CFA d'appui budgétaire, notamment entre 2003 et 2016.
L'immigration et la sécurité seront au cœur du 5e sommet Europe-Afrique qui se tient mercredi et jeudi à Abidjan et où sont attendus 83 chefs d'État et de gouvernement. Quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe, ainsi que des représentants de l'ONU et des organisations internationales, doivent prendre part à ce 5e sommet Union européenne, Union africaine dans la capitale économique ivoirienne. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé dès dimanche après-midi en Côte d'Ivoire en vue du sommet. Sa présence avait un temps fait débat en raison de celle du Front Polisario qui a proclamé une république arabe sahraoui démocratique au Sahara occidental, un territoire que le Maroc considère comme sien. Togo, le président Faure Gnassingbé se dit rassuré sur l'état indivisible du pays après une visite ce week-end à Sokodé, deuxième ville du Togo, un important foyer des tensions qui agitent ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 3 mois. C'est à Sokodé, fief du nouvel opposant Tipi Achadam, qu'ont commencé les vagues de manifestations en août dernier avant de se propager dans le reste du Togo. En RDC, l'épiscopat catholique a exhorté ce lundi le président Joseph Kabila à prendre l'engagement public de ne pas se représenter à la présidentielle du 23 décembre 2018 pour permettre la tenue d'élections dans un climat apaisé suite aux tensions liées à son maintien à la tête de l'État au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. Dans ce message, intitulé « Allons vite aux élections », les évêques congolais ont également invité le gouvernement à publier avant la fin de l'année le plan de décaissement des fonds destinés à l'organisation des prochains scrutins et à prendre les mesures de décrispation en faveur des prisonniers et des exilés politiques. Et on décide toujours aux réactions négatives des opposants après l'interdiction par le gouverneur de la ville de Kinshasa des marches pacifiques de la majorité et de l'opposition prévues les 28 et 30 novembre 2017. Félix Tshisekedi et le rassemblement d'opposition qualifient cette décision, et je cite, de sans objet. Les détails avec Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le communiqué est tombé samedi en fin de journée. La ville de Kinshasa dit prendre en compte l'environnement et le contexte actuel et pour prévenir toute transformation des manifestations dites pacifiques en manifestations susceptibles de troubler l'ordre public, elle a levé l'option de ne pas prendre acte des manifestations prévues dans la capitale. En clair, André Kimbuta et son gouvernement provincial interdisent les marches pacifiques de la majorité prévues le 28 et de l'opposition annoncée pour le jeudi 30 novembre 2017. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Après Martin Fayoulou qui a qualifié samedi cette décision de distraction et confirmé l'activité, Félix Tshisekedi a enfoncé le clou dimanche. Le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a jugé sans objet la décision du gouverneur André Kimbuta. Nous y sommes. Voilà pourquoi la tuerie ferrière de la Kabylie avait multiplié les avis de manifestation. Pas question de nous priver de nos droits et libertés. Pour nous, c'est sans objet. J'appelle les Congolaises et les Congolais à participer massivement à la marche du 30 novembre 2017, a-t-il réagi sur son compte Twitter. Kinshasa, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Un passe au Burundi, les pourparlers inter-burundais aujourd'hui au point mort, après leur début il y a plus de deux ans, doivent reprendre du 27 novembre au 8 décembre sans la participation de la principale coalition de l'opposition burundaise, la CNARED. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, a demandé aux Burundais de l'intérieur et à certains politiciens ce qu'ils attendent de ce quatrième round de discussion à Arusha, en Tanzanie.
Depuis le 15 novembre dernier, le bureau de la médiation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa affirme avoir invité à Arusha, en Tanzanie, toutes les parties prenantes dans la crise politique. Il espère que ce round sera plus productif que les trois précédents. Dans les ruelles de la capitale Bujumbura, certains Burundais indiquent qu'ils ne savent pas si ce processus va aboutir aussi longtemps que les deux parties ne veulent pas s'asseoir ensemble. Ce père de trois enfants rencontrés dans un quartier cosmopolite de Bujumbura affirme, comme de nombreux autres Burundais qui n'ont pas voulu s'exprimer sur les ondes de VOA Afrique, que même ceux qui ont voulu faire le coup d'État en 2015 doivent être invités.
Le gouvernement burundais a déjà dit, par exemple, qu'il ne peut pas s'asseoir avec les putschistes personnellement pour que tout puisse aller dans la bonne direction, pour qu'il y ait une solution durable et trouver une solution à la crise. Il faut les inviter pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont voulu changer les institutions. Après, s'ils peuvent demander pardon, on peut arriver à une véritable réconciliation. Sinon, c'est impossible d'avoir la paix.
Pour cette mère de famille de l'intérieur du pays venue rendre visite à une parenté de Bujumbura, ce prochain round est porteur d'espoir si toutes les questions sont abordées.
Finalement, s'ils ont accepté de s'asseoir ensemble, c'est déjà une bonne chose. J'espère que toutes les questions qui les divisent trouveront une solution adéquate. Il y a des problèmes relatifs à la situation politique du Burundi. Ce sera le moment de parler concrètement de tout ce qui les divise pour une paix durable. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes des réfugiés, tout ça, en tout cas pour bâtir le pays.
Certains rares politiciens de l'opposition sont restés au pays. Léonce Nguendakumana, vice-président du parti Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, est parmi eux. Quels sont les thèmes qui seront abordés dans ces négociations en Tanzanie, Nguendakumana?
Nous sommes au stade où nous sommes déjà convenus sur l'agenda des négociations. Les questions politiques, le deuxième groupe concerne les questions électorales, législatives, trois, ce sont les questions en rapport avec la paix et la sécurité dans le pays. Et en quatrième lieu, nous allons parler des questions économiques, de cette pauvreté, de cette misère, de son chômage. Les acquis à ne pas négocier, mais à consolider, c'est l'accord d'Arusha, c'est la constitution.
Pour le parti Frona Union pour le Progrès National, non reconnu par le gouvernement, Tassien Sibomana explique ce qui sera à l'agenda du prochain dialogue d'Arusha entre les protagonistes politiques.
Nous partons avec une demande ferme de la réaffirmation du respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Deuxième voie de sortie, c'est qu'on va demander qu'il y ait un mécanisme de suivi et de mise en œuvre de l'accord d'Arusha, sans oublier la question pertinente d'ordre sécuritaire.
Les autorités burundaises estiment qu'après avoir sillonné les monts et vallons du Burundi, il est temps que ce dialogue atterrisse dans la capitale du Burundi, car la paix est revenue sur toute l'étendue de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, les forces de sécurité font état aujourd'hui d'un retour à la normale dans le pays après l'intervention militaire mi-novembre qui a provoqué la démission du président Robert Mugabe et son remplacement par l'ancien vice-président. Le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, doit annoncer prochainement la composition de son gouvernement. Quant à son prédécesseur Robert Mugabe, il se porte bien et se réjouit à 93 ans de pouvoir profiter de sa retraite politique forcée. C'est ce qu'assure un proche de l'ancien président quelques jours après la chute du plus vieux chef d'État en exercice de la planète, Nicolas Pinault.
Il va bien, je suis allé le voir, il est assez jovial. C'est Léo Mugabe, fils de Sabina, la sœur défunte de Mugabe, qui l'affirme à l'agence France Presse. Ce proche de l'ancien président ne confirme pas en revanche les informations du quotidien zimbabwéen The Independent, qui explique dans son édition dominicale que Mugabe aurait obtenu une enveloppe de 10 millions de dollars, l'immunité contre toute poursuite judiciaire et l'assurance de garder ses biens. Pas de confirmation non plus du père Fidelis Mukonori, qui a servi d'intermédiaire entre Mugabe et les militaires lors de la prise de pouvoir, précise à nos confrères de la BBC qu'aucune somme d'argent n'a été discutée lors des négociations.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.